l'épître de Pierre. Et puis je vous propose, durant ce mois d'août, eh bien, que nous puissions lire ensemble cette épître, cette première épître de Pierre. On ne va certainement pas faire le tour de cette épître, bien qu'il n'y ait que 5 chapitres, mais on n'avancera pas verset par verset non plus, et ce n'est pas notre prétention en tout cas. Mais j'espère que le Saint-Esprit nous guidera et nous permettra que cette parole vienne pour notre édification. Seigneur, on veut écouter ta parole ce matin. Merci pour elle. Elle est vraiment une lumière sur notre sentier. Et Seigneur, on veut te demander de l'inscrire, Seigneur, dans notre mémoire et puis voir davantage inscrit-là dans notre cœur, Seigneur. Seigneur, nous voulons être instruits par elle, transformés par elle. Nous voulons la mettre en pratique, Seigneur. Seigneur, bénis cet instant autour de ta parole. Amen. Alors, la première épître de Pierre, est-ce que ça va? Est-ce que je parle bien, clairement et tout ça? Cette première épître de Pierre, je n'ai pas beaucoup entendu de prédication à son sujet. Et pourtant, je pense que c'est une lettre importante. C'est une lettre circulaire du premier des disciples de Jésus, qui est destinée aux communautés chrétiennes. C'est marqué juste au premier verset que nous allons lire. Communautés chrétiennes qui se trouvent toutes en Asie mineure, l'actuelle Turquie. Le Pont, la Galatie, la Bithynie, l'Asie, on l'appelle l'Asie, la Cappadoce sont des provinces romaines qui se situent donc en Asie mineure. Alors, pour ne pas faire d'anachronisme, parce que souvent, lorsqu'on lit la Bible, on a l'impression que la Bible est arrivée comme ça, tout cru. Hein, voilà, on l'a dans la main, elle est arrivée comme ça, telle qu'elle. Il y a quand même un processus qui nous a conduit à la formation de la Bible. Je vous rappelle, pour ne pas faire d'anachronisme, donc, que la poste n'existait pas à cette époque. Hein. Enfin, il y avait sûrement une poste dirigée par les Romains, mais voilà, à cheval, qui allait de station en station. Internet n'existait pas, pas de mail, pas de Bible toute faite comme nous avons aujourd'hui. En fait, on apprend au chapitre 5, c'est les derniers versets, et au verset 2, que cette lettre a été transmise par un dénommé Sylvain, ou Silas. Et donc ce Sylvain, eh bien, il fait office de poste, de facteur, de timbre, tout ce que vous voulez. Et l'épître de Pierre, c'est Pierre qui nous le dit dans sa lettre, a été écrite pour encourager les chrétiens et pour les rassurer qu'ils sont dans une bonne voie lorsqu'ils suivent Jésus-Christ. Je vous le lis simplement dans la version du Semeur, donc chapitre 5, verset 12, peut-être que Monique, si tu as... Voilà. Mais moi, je vous le dis dans la version du Semeur, c'est une autre version qui est derrière. Par Sylvain, ce frère fidèle, je vous ai écrit assez brièvement, donc Pierre écrit brièvement, mais c'est quand même assez costaud tout ce qu'il dit, pour vous encourager et vous assurer que c'est bien la véritable grâce de Dieu que vous êtes attaché. C'est bien à la véritable grâce de Dieu que vous êtes attaché. Donc, écrite pour nous encourager, pour nous exhorter, pour nous rassurer et pour nous assurer que nous sommes bien dans la véritable grâce de Dieu. Alors imaginons, on va se mettre des années en arrière, que nous sommes dans les années 60. C'est dans les années 60 que cette lettre a été écrite, selon les spécialistes. Nous sommes dans les années 60 de notre ère. Nous sommes chacun chez nous, avaqués à notre occupation. Et puis on vient nous avertir, on tape à notre porte. Je ne sais pas s'il y avait des portes, peut-être qu'il y avait des toiles, mais enfin, en tout cas, on vient nous avertir. Ce matin, c'est peut-être un petit enfant qui vient nous avertir. Quelqu'un est arrivé de Rome et il porte un message de Pierre. Vous savez, Pierre, c'était l'un des premiers disciples. C'est lui qui a eu cette révélation que Jésus était le Christ, le Fils du Dieu vivant, le Messie promis à Israël. Si vous voulez, ce soir, eh bien, on va écouter le message qu'il nous transmet. C'est les réunions de chrétiennes, à l'époque, ça se passait le soir, ce n'était pas le dimanche matin. Après, ils ont pris l'habitude de faire ça le dimanche. Mais au début, c'était en soirée, on travaille dans la journée. Hein. Alors écoute, ce soir, si tu veux, eh bien, on se réunit ensemble et puis on va écouter ce que Pierre va nous dire. Et puis là, le soir arrive, la communauté se rencontre, certainement dans une maison pouvant les accueillir tous. Certains sont des juifs croyants en Jésus le Messie. D'autres sont des païens qui sont venus à la foi. Certains sont des esclaves, d'autres des hommes libres. Il y a un nombre assez important de femmes. Juste, je fais remarquer quand même que ce matin, la majorité des prières ont été faites par des dames. Alors moi, j'encourage les messieurs aussi de prier à haute voix et d'apporter leur louange. Hein. Mais merci, mesdames, hein, quand même, d'amener votre louange et de nous encourager. Voilà. Donc, ils viennent de milieux tout à fait différents et ensemble, ils forment quelque chose de nouveau, quelque chose d'inédit, qui dépasse les frontières sociologiques et sociétales de l'Empire romain. Une nouveauté, des hommes de différentes conditions qui se réunissent ensemble dans un même endroit. Et puis là, on écoute Sylvain. Il est appelé aussi Silas dans un autre passage. C'est lui qui porte le message de Pierre. Alors Sylvain déroule le rouleau. C'est souvent des rouleaux, hein, les lettres. Et puis il commence à lire. Puis on l'écoute de bout en bout. Tout le monde est attentif. On a vraiment une capacité supérieure à celle que nous avons d'aujourd'hui. Hein. Imaginez ce matin que je vous propose de lire les 5 chapitres de l'Épître maintenant. J'ai failli le faire. Hein. Je dis, non, ça va être trop pour les auditeurs. Hein. Pour moi, ce serait trop aussi. Alors, on va lire que 5 versets. Mais à l'époque, eh bien, Sylvain était là, lisait la lettre, et puis on écoutait. Puis après, à la fin de la lecture, c'est cette lecture qui faisait office de prédication, en fait. À la fin de la lecture, on peut poser des questions aux messagers, on peut s'exhorter aussi au travers de ce qu'on a entendu et compris de la lettre. Et puis à la fin, on finit et on prie, et puis à l'action de grâce, et puis on prend le pain et le vin ensemble, comme nous allons le faire tout à l'heure. Sylvain, lui, va rester quelques jours, puis il s'en ira vers une autre communauté, dans un autre village, dans une autre ville. Et puis il reprendra la lettre de Pierre et puis il la relira. Pendant les quelques jours passés dans la ville où il est, ben quelqu'un va peut-être reproduire, recopier la lettre de Pierre pour pouvoir la garder, la relire. Puis cette copie, compilée avec d'autres lettres reçues par d'autres apôtres, comme celui de l'apôtre Paul, eh bien, fera partie des centaines d'années plus tard, avec de nombreuses autres copies, un peu disséminées par le monde, eh bien, des textes originaux sur lesquels nos savants travaillent pour former ce que nous appelons, nous, notre Bible et notre Nouveau Testament. Alors, on va lire les 5 premiers versets de cet épître. Ça m'a vraiment démangé hein, de vous proposer de lire ensemble la totalité de l'Épître. Mais je vous conseille, dans la semaine, puisque nous allons pendant quelques temps lire ensemble cet Épître de Pierre, eh bien de lire aussi chez vous cet Épître d'un bout à bout. Hein. Donc ils vont être affichés. Tu peux passer la seconde diapo, Monique. Et je vais le lire avec vous dans cette version. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, aux élus qui vivent en étranger, dans la dispersion, dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. Élus selon le dessein de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, pour obéir à Jésus-Christ et avoir part à l'aspersion de son sang. Que la grâce et la paix vous viennent en abondance. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait naître de nouveau pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut se corrompre, ni souiller, ni flétrir. Cet héritage vous est réservé dans les cieux, à vous que la puissance de Dieu garde par la foi pour le salut, prêt à se révéler au moment de la fin. Parole de Dieu. Donc Pierre est donc l'auteur de la lettre. Il se présente comme apôtre de Jésus-Christ, c'est-à-dire un envoyé du Christ, un envoyé par le Christ, appartenant au Christ. Et il n'y a pas de doute que c'est bien l'apôtre Pierre qui a écrit cette lettre. Il dit au chapitre 5 qu'il a été témoin des souffrances du Christ. Et puis si on est attentif à la lecture ou à l'écoute de l'Épître, on peut s'apercevoir d'éléments qui se rapportent aux événements de la vie de Pierre. Ne serait-ce que pour citer que celui-ci, lorsqu'il exhorte les anciens des églises à faire paître le troupeau de Dieu, le troupeau que Dieu leur a confié. Vous rappelez-vous, lorsque Jésus s'adresse à Pierre après son reniement et après son relèvement, ce que le Seigneur lui a dit, « Fais paître mon troupeau ». C'est une exhortation qu'il a reçue, qu'il a relevée et que maintenant il fait part aux autres responsables des églises. Lorsque Pierre écrit, certainement vers l'an 60, donc je vous l'avais dit, il écrit dans l'endroit qu'il nomme Babylone. La plupart des commentateurs, si ce n'est tous, pensent que Babylone, eh bien ce n'est pas Babylone. C'est qu'il s'agit d'une sorte de langage codé. Babylone, si vous voulez, dans la Bible, c'est l'image de la ville qui s'élève par excellence contre Dieu. C'est aussi l'endroit où les exilés du peuple juif furent amenés en déportation. C'est donc une image, un symbole. En fait, Pierre se trouve certainement à Rome, où il va mourir en martyr 4 ans après avoir écrit cette lettre. Le contexte de la lettre, ce n'est pas une franche persécution. Elle sera à venir plus tard, lorsque Pierre et Paul vont mourir sous les mains de Néron. Mais présentement, c'est plutôt un contexte d'hostilité larvée de la société vis-à-vis du christianisme et de l'évangile. C'est plutôt de l'incompréhension, du mépris, de l'ostracisme. On met de côté les chrétiens. Et puis ce mépris va s'exprimer par des injures, par de la calomnie, par de la diffamation. Alors au départ, les autorités romaines ne savaient pas faire la différence entre le christianisme et le judaïsme. Bientôt, elles feront la différence. Le christianisme va être considéré comme une superstition nouvelle, une religion nouvelle. Et vous savez, à Rome, on n'aime pas les choses nouvelles. Ce n'est pas comme aujourd'hui, et tout ce qui est nouveau, ça fait le buzz. Mais à Rome, à l'époque, tout ce qui est nouveau, ce n'est pas bon. Les chrétiens sont victimes de préjugés, de théories du complot, parfois de violences spontanées de la part des païens, qui les accusent d'être une menace pour l'ordre public. On a des exemples dans le livre des Actes des Apôtres, par exemple, acte 19 à Éphèse, où la prédication de l'Évangile fait faire des émeutes dans la ville. On va accuser les chrétiens de pratiquer des rites bizarres, adorer un dieu à tête d'âne, on va accuser les chrétiens de faire du cannibalisme, ils mangent le corps et le sang de Christ, voilà. Pour quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est, qui ne comprend pas, ça peut porter à confusion. Alors pourquoi il y a cette suspicion hostile de la part de la société romaine? Parce que tout simplement, les chrétiens vivent autrement. Tout simplement, les chrétiens vivent autrement. Ils sont une petite minorité, 0,1% de la population autour de la Méditerranée à cette époque, donc vers les années 60 à 100. C'est-à-dire à peu près 80 000 à 100 000 personnes quand même. C'est une population de 80 millions autour de la Méditerranée. Effectivement, ils vivent autrement. Il ne participe pas aux fêtes liturgiques qui vient à répétition dans le calendrier romain. On ne les voit dans aucun temple. Ils ne rendent pas hommage aux empereurs. Ils sont considérés comme des athées. On les appelle des athées, les chrétiens. C'est le comble, quand même. Athée, ça veut dire être sans Dieu. Et ils sont donc suspects et étranges. Et d'ailleurs, dans cette épître, on a quelques versets qui nous parlent de ça. Donc l'autre diapo, Monique. C'est pas celle-ci, c'est celle d'avant. Voilà. Voilà, par exemple, je vous ai mis des exemples, on en trouve. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu, au jour où il les visitera. Ça, c'est 2.12 ou 3.16, à peu près la même chose. ayant une bonne conscience, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. » Et au chapitre 4, cette étrangeté, « Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche et ils vous calomnient. » Voilà, donc ce n'est pas une persécution qui est franche, hein, c'est simplement de la calomnie, de l'incompréhension, du mépris, de la moquerie. Qui sont ces gens-là? Ils sont bizarres, ils sont vraiment renfermés. Qu'est-ce qu'ils font dans leur petite salle de réunion? Qui y prie, etc. C'est vraiment... comme cela que c'est perçu. Ils vivent autrement. Ils vivent autrement pourquoi ? Réponse facile. Parce que ils ont fait allégeance à qui ? Au Seigneur. Ils ont fait allégeance au Seigneur. Alors les destinataires de cet épître de Pierre sont ceux qui sont élus selon le dessein de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit pour obéir à Jésus-Christ. Un chrétien se définit comme celui qui obéit à Jésus-Christ. Et Pierre va qualifier ses destinataires aussi de mots très forts. Donc ils sont des élus, c'est-à-dire ceux que Dieu a choisis. Et le mot « élu » est répété deux fois dans cette salutation. Qui vivent en étranger, c'est-à-dire en hôte de passage, dans la dispersion, ou dans d'autres versions, en exil ou dans la diaspora. On pourrait penser, au regard du vocabulaire employé, que les destinataires sont d'origine juive. Mais d'autres passages de la lettre nous montrent plutôt que c'est plutôt dans un contexte mixte, non juif et païen. C'est à des communautés mixtes que Pierre s'adresse, mais qui ont une certaine connaissance et de la familiarité avec les écrits hébraïques. Ils sont donc décrits comme des élus, mais pas simplement comme des élus étrangers et exilés. Mis à part par l'Esprit Saint, obéissant à Jésus-Christ, au bénéfice du sang de Christ. En les appelant comme ça, il me semble que Pierre veut former en eux leur véritable identité. Ils ne sont pas nécessairement géographiquement dispersés ou exilés, ils sont peut-être dans leur ville d'origine, là où ils ont toujours vécu. Mais ils sont dispersés et étrangers de manière identitaire, parce qu'ils appartiennent à Jésus-Christ. L'exil est comme une image continue de la vie de foi. C'est l'image du peuple de Dieu en tant que citoyen du ciel, et pas complètement chez lui, dans les sociétés dans lesquelles ils vivent. Eux-mêmes, les croyants, les chrétiens, ne se mettent pas à part de la société romaine. Ils font partie de toutes les couches de la société. Tout à l'heure, en introduction, je vous ai cité les personnes, des esclaves, des hommes libres, des femmes, des barbares, des grecs, etc. Mais parce qu'ils sont chrétiens, nés à une nouvelle vie, nés de nouveau, nous dit l'apôtre Pierre, ils ont fait allégeance à la Seigneurie de Jésus dans leur engagement. Et leur engagement les a conduits à adopter des comportements qui les mettent en marge de la société romaine. En d'autres termes, pour rappeler les mots de Jésus, qui sont peut-être plus faciles à assimiler pour nous dont nous avons davantage l'habitude, ils sont dans le monde, mais ils ne sont plus du monde. Dans le monde, quel que soit l'endroit où ils habitent, quelle que soit leur patrie, ils ne sont pas vraiment chez eux. Nous ne sommes pas vraiment chez nous. Et j'aimerais vous lire un écrit des pères apostoliques dans une lettre de cette époque-là. C'est l'épître à Diocnète. Donc ce sont des écrits qui datent avant l'an 100. Et voici un témoignage qui nous parle de ça. Et tout à l'heure, William nous parlait que nous ne sommes pas différents des autres, hein, n'est-ce pas ? Les chrétiens ne se distinguent pas des autres hommes, ni par le vêtement, ni par le pays, ni par le langage. Ils n'habitent pas des villes qui leur soient propres. Ils ne se servent pas de quelque dialecte extraordinaire, Leur genre de vie n'a rien de singulier. Ils se répartissent dans les cités grecques et barbares suivant le lot échu à chacun. Ils sont partout. Ils se conforment aux usages locaux pour les vêtements, la nourriture et leur manière de vivre, tout en manifestant les lois extraordinaires et vraiment paradoxales de leur république spirituelle. J'aime beaucoup ça. Ils résident chacun dans sa propre patrie, mais comme des étrangers domiciliés. Ils s'acquittent de tous leurs devoirs de citoyens et supportent toutes les charges comme des étrangers. Toute terre étrangère leur est une patrie et toute patrie une terre étrangère. Ils se marient comme tout le monde, ils ont des enfants, mais ils n'abandonnent pas leur nouveau-né. La société romaine pratiquait l'abandon des nouveau-nés qu'ils ne voulaient pas. Ils partagent tous la même table, mais non la même couche. Mais pas le même lit, voilà, etc., etc. Donc, ils sont exactement les mêmes, on ne les distingue de pas, mais ils ont une loi supérieure, parce qu'ils ont fait allégeance à quelqu'un de supérieur. En employant ces mots qui sont du vocabulaire biblique de l'Ancienne Alliance, Pierre veut les enraciner dans l'histoire biblique, dans l'histoire de famille, si vous voulez. L'élection fait référence à l'élection du peuple d'Israël, qui est appelé le peuple élu, qui reste le peuple élu, choisi non pas parce qu'ils sont meilleurs, mais juste parce qu'ils sont aimés. C'est un mystère. Élection et vocation vont de pair. Ils sont choisis car aimés du Père, choisis en vue du salut, mais choisis aussi pour être en bénédiction pour le monde. Abraham était considéré comme l'étranger en Canaan. Genèse 23 et verset 4. Il nous est dit, lorsque Abraham veut acheter un terrain pour enterrer Sarah, il dit, je suis comme un étranger au milieu de vous. Abraham, ça résonne, c'est l'étranger au milieu de Canaan. Pourtant, le pays était promis à sa descendance. Et le peuple élu fut amené en exil à Babylone pour avoir désobéi à Dieu. Mais là, contrairement, les chrétiens, ce n'est pas par désobéissance qu'ils sont en exil. Ils le sont par identité. Par identité. Nous sommes en même temps choisis par Dieu le Père et exilés tant que nous sommes sur cette terre ou tant que le retour du Seigneur ne soit pas effectif. C'est en cela que cette lettre de Pierre est pertinente pour nous aujourd'hui. La tentation est très forte pour nous conformer au monde, pour nous faire aimer par lui, pour nous faire accepter par lui. Nous voudrions que l'Évangile soit bien admis par tous, que nous ayons bonne presse, qu'on parle bien de nous à la télévision et aux médias, que les ministres nous reconnaissent pour ce que nous sommes. En fait, nous voudrions être bien chez nous dans le monde. Mais le monde, ce n'est pas chez nous. Nous sommes dans un monde que l'on peut décrire comme hostile à l'Évangile. Aimé par Dieu, certes, car Dieu a tant aimé le monde, mais hostile à l'Évangile. C'est rare de trouver des articles bienveillants dans nos médias. Même des ministres ne savent pas ce que c'est que les évangéliques. Ils croient qu'on soutient une telle politique d'extrême droite, etc. Jésus va dire, nous sommes envoyés comme des agneaux au milieu des loups. Voilà, ça c'est notre identité. Nous sommes des agneaux au milieu des loups. Parfois nous mordons un peu. Nous voudrions être préservés, toujours avoir du succès, toujours acceptés, toujours en bonne santé. Nous voudrions vivre comme des élus. Mais ce n'est que la première partie. Nous sommes des élus, mais nous sommes étrangers et dans la dispersion. Et Pierre va expliquer dans cet épître que les souffrances, les épreuves diverses, c'est marqué diverses, ou toutes sortes d'épreuves, ces souffrances et ces épreuves que les chrétiens endurent dans leur condition d'exilés sont normales, voire normatives. Alors on va lire quelques versets. Monique. Chapitre 1, verset 6. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Il le faut, parce que c'est notre condition d'exilés. 4, 1. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de cette même pensée. Vous allez souffrir. Bah, c'est pas populaire hein, dans nos milieux, hein, la souffrance. Pierre 4, verset 12. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Vous souffrez. Et même, ça peut être une fournaise pour certains. Alors, l'apôtre Pierre a cette volonté d'expliquer pourquoi les chrétiens sont dans telle situation. Et il leur dit, parce que vous êtes des étrangers à ce monde, parce que vous êtes des exilés à ce monde. Mais dans un but, celui d'obéir au Seigneur, de servir le Seigneur et d'être un témoignage autour de vous. L'hostilité du monde se manifeste par toutes sortes d'épreuves, mais pas que. Le monde a un fort pouvoir d'assimilation. Le monde voudrait que nous soyons bien chez nous, chez lui. Le monde dit aux chrétiens, bienvenue chez vous. Ne soyez pas différents des autres. Ayez le même comportement que les autres. Vous pouvez rouler votre assurance, vous pouvez rouler vos impôts. Soyez comme nous. Oui, le monde voudrait que nous soyons bien chez nous, chez lui. En étouffant notre désir du ciel, en nous faisant oublier qui nous sommes, en voulant que nous marchions comme les autres. Mes amis, nous sommes appelés, frères et sœurs, à avoir une vie différente, à une vie que Jésus va dire extraordinaire. Écoutons Jésus qui parle. Si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas aussi de même? Nous sommes appelés à avoir un comportement différent. Non seulement à louer le dimanche matin que Dieu est puissant et qu'il règne sur nous, mais dans chaque situation de notre vie, à le proclamer et à le vivre. Pierre va parler beaucoup dans cette épître. J'aime bien, j'ai trouvé ça, c'est une version, je ne me rappelle plus laquelle c'est, mais la belle manière de vivre. La belle manière de vivre, selon Jésus-Christ. Hein ? Pierre va parler beaucoup de la belle manière de vivre des chrétiens, de la bonne conduite, des bonnes œuvres. La belle manière de vivre. Nous sommes appelés, frères et sœurs, à avoir une belle manière de vivre, qui donne envie, qui donne du goût. Hein ? Alors nous avons besoin de cette épître, de l'épître de Pierre pour nous rappeler qui nous sommes, pour rappeler notre identité, pour comprendre notre place et notre rôle ici-bas. Jésus va employer l'image de la semence. Les fils du royaume sont semés en terre comme autant de semences. Nous avons été, vous et moi, nous avons été semés en terre dans ce champ qui est le champ de Dieu pour que nous puissions porter du fruit. Et pour qu'on porte du fruit, il va falloir nécessairement mourir, comme le grain de blé. Alors, je vais terminer, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur cette épître, c'est incroyable. Mais Pierre ne dit pas seulement qu'ils sont des élus, des étrangers, des exilés. Hein, ça peut plomber lorsqu'on reçoit ça. Hein, voilà. Mais il le dit en soulignant qu'ils le sont par dessein divin. Par préscience, connu d'avance. Mes amis, frères et sœurs, toutes nos situations sont connues de lui. Nous sommes des exilés, des étrangers sur cette terre, mais nous sommes bien connus de Dieu. Et même cela est voulu par Dieu. Dieu nous connaît toujours et depuis toujours. Vous êtes connus. Nous sommes connus, nous sommes éternellement connus. Nous ne sommes pas des électrons libres dans l'univers. Nos situations particulières dans lesquelles nous vivons maintenant ne sont pas dues à un hasard impersonnel ou à un destin aveugle. Il n'y a pas de chance dans la vie du chrétien, il n'y a pas de malchance non plus. Le sort ou le mauvais sort ne peut nous atteindre, car nous sommes connus de lui. Nous ne sommes pas des orphelins perdus, nous sommes des citoyens du ciel. C'est notre identité. Et nous cheminons pour rentrer chez nous. Et en cheminant, nous témoignons de notre allégeance au Seigneur. Nous ensemençons le monde. Nous luisons au milieu de l'obscurité. Les gens vont voir les belles œuvres que nous produisons et ils vont louer le Seigneur à cause de ce que nous faisons. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, viens la graver dans nos cœurs. Seigneur, viens la graver dans notre mémoire. Viens vraiment la graver dans notre cœur. Seigneur, merci de nous ouvrir cette intelligence, Seigneur Jésus. Et Seigneur, rends-nous fiers, les uns et les autres, de t'appartenir. Rends-nous fiers, Seigneur, les uns et les autres, de croire en ce Dieu grand. Seigneur, donne-nous les uns et les autres, Seigneur, de marcher comme citoyens du ciel. Seigneur, de dire que nous avons une espérance nouvelle et vivante. Seigneur, oui, conduis-nous sur ce chemin qui nous amène à toi. Nous rappelons qui nous sommes en toi. Merci pour cette grâce. Amen. Amen. Je vais inviter les frères et sœurs qui ont été désignés pour la Sainte-Seine de s'approcher.